Radio Kapi.
Oh, Kapi. Blaise Chindani à la présentation.
Bon après-midi à tous et bienvenue à cette grande édition du journal parlé dont voici les titres. À Beni, la police est intervenue pour sauver 10 jeunes gens de Mahagi en Ituri qui étaient sur le point d'être victimes de la justice populaire. Pris pour des rebelles, leur maison a été incendiée. Le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme, mais de rester vigilante. Deuxième jour consécutif des embouteillages monstres créés par les véhicules poids lourds dans la ville de Matadi au Congo central. À cause de ces bouchons constatés dans toutes les artères principales de la ville, la population fait des longues distances à pied. Notre invité est Sylvain Idumbo Bin Munganzi, coordonnateur provincial du Service national de promotion de l'élevage familial et intrants connexes. Il nous parlera de nouvelles pratiques pour l'élevage de poules et de porcs enseignés aux éleveurs de Kindu, Pangi et Lubutu pour améliorer la qualité et la quantité de leur production. Mesdames et messieurs, encore une fois, bon après-midi à tous. Ce journal part de la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, où un incident sécuritaire grave s'est produit mercredi lorsqu'un groupe de 10 jeunes en provenance de Mahagi en Ituri et appartenant à une société de gardiennage locale a été sauvé de justesse d'une justice populaire dans le quartier Tamende. Des jeunes les soupçonnaient d'être des rebelles de l'FCM23 infiltrés dans la ville. Le gouverneur du Nord Kivu appelle la population au calme. Le récit des faits avec Marc Marofimbo.
Ces jeunes, venus de Mahagi en Ituri, se trouvaient à Beni pour un stage professionnel. Ils étaient logés dans une maison d'habitation du quartier Tamende. N'étant pas correctement identifiés par les habitants, certains jeunes excités ont attaqué leur lieu d'hébergement et incendié l'habitation. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour protéger ces jeunes. Cet acte a été condamné par certains habitants, dont Fabrice Moulouhali, qui témoigne.
C'est quand même regrettable lorsque l'on sait qu'on est un état multiculturel et que chacun peut se retrouver où il veut, pourvu que ce soit dans des conditions légal. Ces jeunes-là auraient estimé que c'était des individus suspects de recourir aux services de sécurité pour que les services viennent s'imprégner de la situation.
Pour sa part, Joseph Sabouni, président de la société civile de Moulekera, dénonce les manques de formation.
Si les éléments sécuritaires savaient que ces gens sont là, on ne devrait pas arriver ce qu'on a enregistré aujourd'hui.
Le gouverneur de province, par l'intermédiaire de son porte-parole, le lieutenant Marc Elongo, appelle la population au calme et à ne pas céder aux manipulations.
Le gouverneur de la province appelle la population au calme, à ne pas céder à la manipulation de l'ennemi en se livrant à la justice populaire ou à tout acte à caractère tribal, ethnique ou linguistique.
Le calme est déjà revenu dans le quartier Tamende. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, situation humanitaire critique des déplacés cantonnés dans la localité de Kaira, précisément à Kamatembe, située à l'ouest de Kichanga, dans la chefferie de Bachali, en territoire de Masisi. Selon des sources dans la zone, depuis leur arrivée dans cette zone, il y a 2 semaines, ces déplacés internes vivent dans des conditions très difficiles et sans assistance. Ils plaident auprès de la communauté humanitaire de leur venir en aide afin d'éviter le pire. Plus de détails avec Alain Rung.
Ces déplacés dont le nombre n'est pas encore connu connaissent une situation humanitaire déplorable selon nos sources. Ces derniers sont dépourvus de presque tout. Nos sources ajoutent que la majorité des déplacés, dont les femmes et les enfants, vivent dans des écoles et sont exposés à toutes sortes d'intempéries depuis leur arrivée dans cette zone. Ils vivent dans des conditions inhumaines sans aucune assistance. Ils manquent de nourriture, de médicaments et d'abris provisoires. Vu leur précarité, leur point focal lance un appel aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, notamment en vivre et non vivre. Il faut noter que la situation sécuritaire dans plusieurs localités du territoire de Masisi est devenue instable. C'est suite aux affrontements récurrents qui opposent les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo. Ces combats ont entraîné plusieurs conséquences dans la zone, notamment le déplacement massif des populations civiles.
Dans le sud qui vous voisin pendant ces temps, les combats se sont poursuivis ce jeudi matin entre deux factions d'action du groupe Wazalendo dans le territoire de Mwenga. Des sources dans la zone indiquent que la pomme de discorde entre les deux camps est la décision des autorités de la province portant suppression des barrières illégales érigées dans la région, notamment celles mises en place par les hommes du général autoproclamé Yakaliba. Face aux revendications de la population, les hommes du général autoproclamé Malaika, appuyés par Foka Mike, ancien ministre de l'Intérieur du Sud Kivu, et les FARDC ont procédé au démantèlement de ces barrières. Pour sa part, le chef de la chefferie de Basile, Mwami Kalenga Riziki, se dit préoccupé par cette dégradation de la situation sécuritaire. Il appelle à la protection urgente des civils. On écoute Mukungilwa Wilonja, secrétaire administratif de la chefferie de Basile, joint au téléphone par Ronelyne Tibonera.
Il est fort regrettable que la population civile en territoire de Mwenga, qui subissant déjà une lourde conséquence des effets de guerre qui secouaient la population du site Kivu et l'est de la République démocratique du Congo, de manière générale, se retrouva encore en état pendant les accrochages entre les FARDC et les Wazalendo. Le Mwami Kalenga adresse son message de compassion à toute la population de Mwenga Centre, en particulier celle de la chefferie de Basile en général, pour avoir passé une soirée agitée sur les plans sécuritaires. Il exhorte les parties impliquées dans ces accrochages d'épargner la population civile et de privilégier les voies de dialogue pour règlement pacifique au conflit.
Le territoire de Mwenga est connu pour ses ressources naturelles abondantes, notamment des gisements d'or, des coltans, des cassitérites et des wolframs, ainsi qu'une biodiversité exceptionnelle abritée dans la forêt d'Itombwe. À Kinshasa, Caritas Congo ASBL organise depuis ce mercredi une table ronde stratégique sur la coordination des réponses aux crises avec ses partenaires de Caritas International. L'événement réunit les représentants de la Confédération Caritas International, des Caritas Développement Diocésienne, ainsi que des Caritas Sœurs autour du thème « Pour une gouvernance renouvelée et une coopération fraternelle efficace au sein du réseau Caritas en RDC ». Cette rencontre vise notamment à repenser les mécanismes d'intervention face aux crises multiformes en RDC, renforcer les capacités locales et la réactivité du réseau Caritas. Reportage de Jeff Ngoy Mulonda.
Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, explique les raisons de cette première table ronde du réseau Caritas avec des orientations stratégiques pour répondre aux crises.
Si ce thème nous réunit aujourd'hui, c'est parce qu'il répond à une exigence incontournable. Dans un monde globalisé, traversé par des crises sociales, économiques, climatiques et sanitaires, les réponses les plus solides et les plus légitimes prennent racine dans le local.
En quoi consiste cette table ronde durant trois jours de réflexion? Monsieur l'abbé Edouard Makimba, secrétaire exécutif de l'ASBL Caritas Congo.
Nous allons réfléchir et échanger autour d'un thème essentiel pour l'avenir de notre réseau. La localisation, le partenariat, la coordination des réponses dans la perspective d'une gouvernance renouvelée et d'une coopération fraternelle efficace au sein de Caritas en République démocratique du Congo.
Dans un contexte marqué par des crises humanitaires persistantes et une réduction des financements internationaux, Caritas Congo adoptera une déclaration finale et une feuille de route stratégique pour être plus forte et solidaire à l'issue de ce forum.
Nous le disions en titre, la ville de Matadi au Congo central vit sa deuxième journée consécutive des embouteillages monstres créés notamment par des véhicules poids lourds. À cause de ces bouchons constatés dans toutes les artères principales de la ville, la population fait des longues distances à pied. À cet effet, l'Association congolaise pour la promotion des humains, qui considère cette situation comme étant de l'insécurité routière, se pose la question de savoir si la décision prise dans l'arrêté urbain interdisant l'entrée des véhicules à gros tonnage avant 22h à Matadi est toujours d'application. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Depuis l'avant-midi d'hier mercredi à ce jeudi, un flux de véhicules poids lourds a pris d'assaut toutes les artères secondaires et principales de la ville de Matadi. Ces embouteillages monstres ne permettent pas à la population de se mouvoir aisément. Pour atteindre les centres-villes, siège de plusieurs administrations, ceux qui habitent vers Mvoidou, Bouima et Kinkanda font les pieds. Même à pied, ils circulent difficilement car les trottoirs sont envahis par les commerces. Colino Mbala, coordonnateur de l'association congolaise pour la promotion des humains, déplore cette situation.
Il y a des textes qui interdisent la circulation journalière des véhicules de gros tonnage. Mais nous ne comprenons pas. D'abord, la nuit, vous ne pouvez pas circuler parce qu'il n'y a pas de l'éclairage public. Et la journée, même si les gens se réveillent le matin pour arriver au travail à temps, ils peuvent arriver à 9h, 10h. C'est à cause des embouteillages.
Contacté, le maire de Matadi dit être conscient des difficultés qu'éprouvent ses administrés. En revanche, Dominique Nkodiambete précise que la mesure interdisant l'accès des véhicules poids lourds avant 22h à Matadi ne donnera jamais lieu à l'invisibilité totale de ces camions, dont la circulation est aussi indispensable pour notamment alimenter la ville de Kinshasa. Matadi, Nana Plus Riche Mambu, Radio Okapi.
Les doctorants et apprenants du troisième cycle de l'école doctorale de l'Institut pédagogique de la Gombe ici à Kinshasa appellent à la libération de leur directeur de thèse, le professeur Pascal Isumbisho Mwapu, dont ils sont sans nouvelles depuis plusieurs jours. Dans un mémorandum adressé au président de la République, ils expliquent que l'enseignant et acteur politique avait été convoqué à une séance de travail le mardi 9 septembre au Conseil national de cyberdéfense. Depuis, disent ces étudiants, un silence inquiétant entoure la situation du professeur Isumbisho. Écoutons leur porte-parole, Amouli Linjanja Papi, au micro de Stanislas Diumi.
Nous, doctorats et apprenants du troisième cycle à l'école doctorale de l'ISP Gombe, avons appris que notre directeur, le professeur Pascal Isumbisho Mwapu, ministre honoré de la fonction publique, est aujourd'hui engagé pleinement dans la recherche scientifique au sein de notre institution, a été convié à une séance de travail le mardi 9 septembre 2025 à 14h à l'invitation du conseil spécial et coordonnateur du conseil national de cyberdéfense. Depuis lors, nous sommes profondément préoccupés par le silence qui entoure sa situation, notamment au sujet d'une éventuelle détention, dont les raisons exactes et également les lieux précis où il serait incarcéré demeurent inconnus à ce jour. Son absence prolongée affecte sérieusement le bon déroulement de nos recherches doctorales et freine l'évolution académique au sein de notre école.
Restons dans la capitale. La question de la production d'électricité en RDC, au cœur des échanges mercredi à Kinshasa entre les ministres des Finances Doudou Fouamba et l'ambassadeur de France en RDC Rémi Marichaux. La France, à travers l'Agence française de développement AFED, s'engage à accompagner la RDC dans ses défis de développement, notamment dans les secteurs énergétiques, en réhabilitant le barrage de la Tchopo. Grâce à Mzati Masanzi, nous fait le point.
Au cours de cette rencontre, le ministre Doudou Fouamba a exprimé les attentes des populations et des élus des provinces confrontés à une pénurie d'électricité persistante. Il insiste sur l'urgence de trouver des solutions durables et rapides. De son côté, l'ambassadeur Rémi Marichaux souligne la détermination de l'AFD à répondre à cet impératif en adaptant le projet initial de réhabilitation du barrage de la Tchopo sur lequel l'agence travaille depuis juillet 2023. Un autre point abordé porte sur le projet du barrage de Rusizi 3. Il s'inscrit en effet dans une démarche de soutien aux efforts diplomatiques des États-Unis pour la restauration de la paix dans l'est de la RDC, affirme le ministère des Finances. La France, par les biais de ses projets, vise à promouvoir l'intégration économique régionale et à garantir que les populations et les pays riverains bénéficient concrètement et rapidement des retombées de la paix retrouvée, déclare l'ambassadeur. Ces derniers a profité de cette occasion pour présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement AFD en RDC, Hervé Conan.
Kinshasa encore, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER a lancé ce mercredi un appel à projets dans le cadre du fonds Mwinda. La cérémonie s'est tenue au fleuve Congo Hôtel en présence de nombreuses autorités politiques dont le ministre des Ressources hydrauliques. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Cet appel à projet s'adresse principalement aux opérateurs privés invités à soumettre leurs propositions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'électrification de la RDC à 100% à l'horizon 2045 avec les soutiens d'autres initiatives, comme l'a souligné le directeur général de l'ANSER, le fonds Mwinda, financé par l'État congolais et appuyé par la Banque mondiale, vise à stimuler et accompagner l'investissement privé dans les secteurs de l'énergie.
Cette politique se fonde sur des objectifs clairs et ambitieux, élever le taux d'électrification à 50% d'ici 2030, diversifier nos sources de production d'énergie, développer l'électrification hors réseau et enfin promouvoir la transition énergétique et réduire notre dépendance critique au bois énergétique.
Pour concrétiser ces ambitions, l'ANSER met en œuvre plusieurs mesures incitatives, notamment la libéralisation du secteur au profit des opérateurs privés, la garantie d'un cadre légal stable et la facilitation du déploiement des mini-réseaux en zone rurale. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques exhorte les opérateurs privé à répondre avec ambition et enthousiasme à cet appel à projet. Il rappelle par ailleurs que le fonds Mwinda constitue, je cite, un instrument de crédibilité pour harmoniser les programmes régionaux et mondiaux.
Actualité internationale.
La France vit jeudi 18 septembre sous le signe de la mobilisation avec près de 900 000 manifestants et grévistes attendus contre le budget qui avait été présenté par l'exécutif français. Une semaine après la journée de mobilisation bloquant tout, les autorités ont également promis une réponse musclée pour empêcher des blocages et autres mesures, mais la mobilisation a pu démarrer.
L'invité.
Radio Kapi reçoit l'ingénieur Sylvain Idumbo Bin Munganzi, coordonnateur provincial du Service national de promotion de l'élevage familial et intrants connexes. Dans son entretien avec Florence Kizalunga, il nous parle des pratiques améliorées de l'élevage des poules et des porcs apprises aux organisations paysannes d'éleveurs de Kindu, Pangi et Lubutu. Ingénieur Sylvain Idumbo Bin Munganzi s'entretient avec Florence Kizalunga.
Ingénieur Sylvain Idumbo Bin Munganzi, bonjour.
Oui, bonjour Madame la journaliste.
Quel a été l'objectif, les soucis pour votre service en formant ces éleveurs sur l'élevage des porcs et des poules?
Notre souci majeur est de renforcer les capacités techniques des éleveurs de la province du Maniema afin qu'ils puissent améliorer leur mode d'élevage pour contribuer à l'amélioration de leur production afin de pallier à certaines difficultés de leur ménage.
Après cette session de formation, on peut savoir quel est ce mode d'élevage amélioré?
Premièrement, nous voulons lutter contre l'élevage en divagation compte tenu des différentes difficultés qu'ils rencontrent. C'est pourquoi cette session de formation a été organisée pour les amener à élever en stabilisation. Personne n'ignore l'importance de l'élevage en stabilisation qui contribue favorablement à l'épanouissement des différentes fermes des éleveurs. Ça contribue aussi à l'amélioration et à l'augmentation rapide des têtes des animaux dans les grands cheptels.
L'élevage en stabilisation demande beaucoup de moyens, donc vous êtes obligé de garder les animaux dans une maison par exemple, et il faut les nourrir, il faut bien les soigner. Comment est-ce que vous allez accompagner ces gens?
C'est ça notre lutte. Avant d'abord de les accompagner, on a voulu les montrer l'importance de ce type d'élevage, parce que comme vous le savez, le CNAPFIC, c'est un service technique du ministère des Pêches et Élevage qui a comme devoir d'encadrer les éleveurs. Alors, à ce qui concerne les cas présents à notre possession, nous allons accompagner les structures cibles en leur dotant les poules, les porcs de races améliorées et nous allons aussi les accompagner en leur dotant l'alimentation qui va les servir à nourrir les bêtes durant 3 mois parce que on ne saura pas continuer toujours à donner à manger. Ils doivent apprendre aussi comment chercher à élever dans ces systèmes que nous venons de citer ici. Et nous mettrons aussi à leur disposition les techniciens vétérinaires et zootechniciens pour les accompagner dans des appuis conseils et traitements des animaux à tout moment où ils auront besoin d'eux.
Les zootechniciens demandent de l'argent. Qui va prendre en charge ces zootechniciens?
L'encadrement des éleveurs, c'est une mission spécifique du CNAPFIC et nous avons un petit souci au niveau de la province du Maniema par rapport au cas que vous venez d'évoquer parce que 99% des agents des CNAPFIC Maniema sont des nouvelles unités mobilité. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement central, pas même au gouvernement provincial. C'est pourquoi le partenaire a songé quand même à disponibiliser les moyens de transport qui leur facilitera à descendre sur terrain pour effectuer les missions conviées à leur responsabilité.
Votre service vit toujours avec ces éleveurs. Quelle est la conséquence de l'élevage en divagation?
L'élevage en divagation a plusieurs conséquences, madame la journaliste. Il y a la facilité de vol. Les animaux mangent n'importe quoi. Les animaux créent des accidents parce qu'ils ne sont pas contrôlés. C'est pourquoi nous, avec notre partenaire Padré, nous sommes en train de lutter contre ce type d'élevage.
Si les participants arrivaient à mettre en pratique toutes les notions apprises ici, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat dans la province du Maniema et la ville de Kindu en particulier, messieurs?
Si du moins les participants parviennent à mettre en application tout ce qu'ils viennent de voir dans la salle d'Ira 5 jours, en tout cas, ça sera très capital dans leurs activités d'élevage. Premièrement, ils verront leur cheptel augmenter très rapidement. Et deuxièmement, ça va contribuer aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que personne n'ignore que dans le monde, tous les pays qui se sont fait développer se sont développés par l'agriculture et l'élevage. Alors, si ces participants parviennent à mettre en application, ça sera très bénéfique dans leur vie quotidienne et ça favorisera aussi la duplication de ce type d'élevage dans d'autres provinces. Nous attendons à ce que les éleveurs de la province du Maniema puissent changer d'abord le mode d'élevage qu'ils pratiquent tout en se séparant de l'élevage en divagation. Parce que s'ils parviennent à adopter ce type d'élevage, ça va changer leurs conditions de vie et ça va augmenter aussi le nombre de têtes dans leur cheptel.
Ingénieur Sylvain Idumbobino Mungazi, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Oui, c'était notre invité ingénieur Sylvain Idumbobino Mungazi qui s'entretenait avec Florence Kizalunga et c'est ce qui met fin à notre journal parlé coordonné par Élisée Chikota Chivueta, supervisé par Alain Irung, Pierre Diassinois, la mise en onde. Vous pouvez réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.